Ok. Alors, petit compte-rendu pour de retour de la négociation assurance chômage de ce matin. Denis Gravouille, j'y étais pour la CGT avec Muriel Wolfers qui est là, qui représentait Privé d'emploi. Et puis Philippe, je te cherchais, intérim CGT. Donc on était les trois dans la sur six de la délégation CGT de ce matin. C'était une négociation qui aurait dû se dérouler sur la journée, et puis comme le MEDEF n'a pas grand-chose à dire, ça s'est déroulé que sur la matinée. Et même, ils étaient pressés de se barrer. Je ne sais pas si vous voulez aller à la manif, peut-être, j'en sais rien. Mais bon. En tout cas, la date du 12 mai avait été prise au départ pour faire une négociation conclusive, c'est-à-dire terminer aujourd'hui un accord sur l'assurance chômage régime général, et puis comme ça pouvait rentrer en vigueur au 1er juillet 2016. C'est parce qu'après, il faut un temps d'agrément et puis un temps de traduction en réglementation de l'accord, comme en 2014, où l'accord avait été signé dans la nuit du 21 au 22 mars, dans les conditions qu'on sait, et qui avait été transposé en convention d'assurance chômage le 14 mai pour rentrer en vigueur au 1er juillet 2014. Là, on est dans un calendrier un petit peu différent. D'abord, le MEDEF, vous l'avez vu, mène un beau chantage au gouvernement en disant: moi, je vais me barrer la négociation assurance chômage si vous n'êtes pas gentil avec la loi travail. Voilà, ils sont gentils avec la loi travail, avec le patronat, puisque ça passe au 49-3, que dans le texte qui passe au 49-3, il est extrêmement favorable au patronat, ne serait-ce que un truc qui avait été vaguement promis, la taxation, surtaxation des contrats courts, qui avait été avancé à un moment par Valls, pris un rendez-vous avec l'UNEF, est sorti du texte, et plein d'autres choses de ce genre, mais ça suffit encore pas au patronat. Alors il y a des tensions internes au MEDEF, hein, parce que le patronat, c'est pas que le MEDEF, mais c'est quand même le navire amiral. Il y a des tensions. Alors donc ils font semblant de sortir de la négociation, n'empêche qu'ils sont venus à cette réunion de ce matin en n'ayant pas grand-chose à dire, en occupant le terrain, on va y venir, et donc en prenant deux autres dates de négociation pour le 30 mai et le 14 juin. Le 14 juin, cette fois-ci, toute la journée. Alors, dans tous les cas, et après on va dire un petit peu ce qui s'est dit ce matin, dans tous les cas, de toute façon, il n'y aura pas d'accord assurance chômage au 1er juillet. On va y revenir tout à l'heure sur le régime général, ce que ça veut dire et ce que ça veut dire pour les intermittents par ailleurs. Ce matin, en négociation, Muriel et Philippe vont compléter. On a eu découvert un magnifique document sur table de l'UNEDIC. L'UNEDIC, donc, je vous rappelle, hein, parce que maintenant qu'on n'a plus la CEDIC et que toute l'indemnisation se fait à Pôle emploi, avant qu'il y avait la NPE, il y avait la CEDIC. L'UNEDIC, ça reste l'organisme qui chapeaute et qui met en œuvre la convention d'assurance chômage. Et il se trouve que sa direction est complètement inféodée au MEDEF. Et ils en ont donné la preuve une fois de plus ce matin, en sortant un texte qui nous arrive sur table, qu'on n'a pas le temps de décortiquer évidemment dans le détail, qui explique comment on va taper sur les droits des chômeurs du régime général et intérimaires, qui sont notamment ceux qui sont dans ce qu'on appelle le régime d'activité réduite, le régime dans lequel on peut, entre guillemets, cumuler un peu d'assurance chômage avec des temps de travail, soit à temps partiel, soit des contrats à durée déterminée, des contrats courts. Alors il y a un truc qui leur apparaît comme scandaleux, mais c'est surtout un beau moyen de faire des super économies sur le dos des chômeurs, c'est que, j'en avais déjà un petit peu parlé, parce que c'était déjà le cas la fois d'avant, mais là on a eu de nouvelles infos. Ils ont pris des exemples de personnes qui travaillent à 60% d'un temps plein au niveau du SMIC, mais en montrant que selon qu'on soit à 60% à temps partiel, c'est-à-dire tout le mois à 60%, ou qu'on ait des contrats très courts ou des contrats plus longs, on ne va pas avoir les mêmes indemnisations chômage. Et c'est scandaleux, évidemment. On pourrait dire que d'accord, avec vous, c'est scandaleux, il faut augmenter tout le monde au niveau du plus haut. Mais non, ce qui est prévu, c'est de tout niveler au niveau du plus bas, évidemment, forcément. Et ça fait, selon les scénarios qui sont présentés par l'UNEDIC, ça fait entre 450 000, un demi-milliard d'économies, voire 1,5 milliard d'économies sur le dos des chômeurs. Donc ça se traduit, alors ça parle peut-être pas à chacun d'entre vous, hein, mais les dépenses d'assurance chômage, c'est de l'ordre de 37 milliards. Donc ça fait une baisse considérable, 1,5 milliard, même 1 milliard. Et surtout, c'est une baisse sur tous les travailleurs précaires. C'est-à-dire la catégorie qui est la plus en augmentation dans les chiffres du chômage, parce qu'on nous gargarise de temps en temps la stabilisation de la courbe du chômage. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est pas vrai déjà pour les chômeurs, entre guillemets, total, hein, chômage total, la catégorie A, mais c'est encore moins vrai quand on regarde les chiffres du chômage des catégories B et C, qui sont passés de 500 000 en 2010 à 1 800 000 personnes en 2015. C'est-à-dire tous ceux qui sont donc, dont c'est justement ces petits boulots, la précarité, ANCO. Donc là, on a une vraie question, c'est d'arriver à alerter sur ces risques de baisse de droits considérables, parce que ramener aux personnes, ça peut être 200 euros de moins sur des revenus mensuels de 1000 euros, quoi. Voire 300 euros dans certains cas qui nous ont été présentés. Ça, c'était la principale.
Après une baisse déjà en 2014 de 300 à 400 euros pour certains,
exactement.
Pour certains intérimaires ou certains travailleurs qui étaient en emploi discontinu.
On continue le travail ils continuent le travail sur les plus précaires en mettant la pression. Donc évidemment, on met la pression à travers la loi travail et on met la pression à travers l'indemnisation du chômage qui baisse considérablement, voire même qui est supprimée, puisque on imagine que dans ce qu'on a vu ce matin, on a besoin de le regarder, on imagine que des gens vont sortir d'indemnisation et sont versés aux minima sociaux ou à rien du tout. Donc ça, c'est le régime général. Alors déjà, on a obtenu très difficilement, je le disais là-haut, une interruption de séance pour pouvoir un peu décortiquer et poser des questions plus précises, et encore, on va devoir encore travailler sur ce document dont on ne veut pas, voilà, mais qui est la base des discussions entre MEDEF, patronat dans son ensemble, et CFDT, qui trouve ça intéressant, mais quand même, faut trouver des aménagements, etc., etc. Il y a même une nouveauté, imaginez un des scénarios où, si on a travaillé à temps partiel, on serait indemnisé à temps partiel. Bon, avec un minimum de 14 jours quand même, mais c'est dire le niveau dans lequel ils peuvent aller. Je parlais de questions de calendrier au tout début. Le calendrier, il est fait que de toute façon, il n'y aura pas d'accord assurance chômage suffisamment tôt avant le 1er juillet, et même le 15 juin, le 14 juin, ça paraît très peu probable. Donc on va vers une prorogation de l'accord actuel. Mais c'est un sursis. Et c'est un sursis dans lequel il va peut-être y avoir une négociation en douce pendant l'été, sur le régime général, ou tout juste à la rentrée, histoire de passer le cap des mobilisations. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils imaginent. De passer, de ne pas trouver. Parce que même la CFDT est prête à négocier le poids des chaînes, est quand même dans l'impossibilité de signer, puisque le patronat ne refuse toute idée de contribution nouvelle, notamment de hausse de cotisation, par exemple de déplafonnement des salaires, des cotisations sur les salaires des cadres, des très hauts cadres, ceux qui sont à plus de 12 000 euros par mois. Ce qui rapporterait un déplafonnement total 800 millions d'euros, par exemple. Si on veut des économies ou des nouvelles recettes, c'est facile à trouver. Et sans taper sur les plus précaires. Ça, c'est le calendrier, régime général, avec le risque que ça passe en douce. Et puis, par ailleurs, il y a l'effet sur l'accord du 28 avril pour les intermittents du spectacle. Nous avons signé un accord le 28 avril, dont on a rendu compte, hein, je ne vous refais pas le détail de ce qu'il y a dedans. Cet accord, il est en train d'être chiffré par le comité d'experts, qui heureusement n'est pas constitué que de l'UNEDIC, mais d'un certain nombre d'experts indépendants de l'UNEDIC. Donc il y a des batailles déjà, parce que l'UNEDIC va évidemment essayer de faire en sorte d'alourdir la facture en disant qu'il n'y a pas les économies, que c'est même pas applicable, etc., etc. La négociation du 30 mai va devoir examiner l'arrivée de ce texte. Et nous, on a déjà prévenu que ce texte, il devait entrer en application au 1er juillet 2016 et pas après. Non seulement il devait rentrer en application, mais pas après le 1er juillet 2016. Vous avez parfaitement compris pourquoi. C'est évident que nous renvoyer après l'été, c'est passer l'été des festivals et donc jouer sur. On dégonfle la mobilisation aussi du côté des intermittents du spectacle. La bataille va continuer. On a entendu la ministre de la Culture, le Premier ministre, dire que cet accord était très bien, il est unanimement signé. Voilà, on a entraîné effectivement tout le monde. La CFDT s'est fait un peu tirer l'oreille pour le signer, mais bon, s'ils ne voulaient pas complètement disparaître du champ, ils ont fini par le signer. CFDT au niveau de la fédération du secteur. Mais ça ne veut pas forcément dire que sa confédération le validera. Et donc, cet accord, il doit absolument entrer en vigueur au 1er juillet. On va entendre des tentatives aussi, y compris du gouvernement, parce que tout ça est un petit peu organisé, à dire, on va proroger la convention d'assurance chômage, puis vous pouvez bien attendre 3 mois. Ben non. On ne va pas attendre 3 mois, on ne va pas attendre 10 jours, on va attendre que ça se mette, on va faire en sorte que ça soit mis en œuvre au 1er juillet 2016 et que cet accord soit respecté dans son intégralité. Nonobstant quelques petits changements que nous, on peut faire, puisque en attendant les chiffrages, il y aura peut-être des choses, des ajustements, ce qu'on avait prévu nous, en fonction des retours qui seront faits. Voilà, en gros, ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Et puis, voilà, Philippe et Muriel, je vous ai évidemment les bienvenus. J'ai encore oublié de parler des seniors. Parce que ce matin, il y avait un autre sujet de discussion, à part activité réduite. Mais je te laisse le présenter.
C'était les seniors. Et les seniors, l'idée, comme il y a de plus en plus de gens qui se trouvent de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps au chômage, il faut donc reculer l'âge auquel on passe de 24 mois. Donc pour l'instant, on est indemnisé au maximum 24 mois avant 50 ans et 36 mois après 50 ans. Et donc l'idée, ce serait de repousser jusqu'à 59 ans la catégorie senior. Alors progressivement, mais voilà. Donc ils ont présenté sur table un document comme ça avec des chiffrages de ce que ça coûte, etc. Le sujet senior était annoncé comme un point qu'on traiterait à la dernière séance de négociation s'il y avait le temps, mais ils n'ont pas réussi à l'envoyer depuis la dernière séance de négociation. Donc ça a été encore un document qu'on découvre sur table. Les deux choses, donc la première chose, c'est le recul de l'âge, donc de plus en plus de gens qui vont se retrouver sans indemnité chômage, sans droit à la retraite et probablement sans possibilité d'avoir des indemnités journalières, donc de plus en plus de gens qui risquent de basculer de l'assurance, enfin l'assurance sociale vers la solidarité nationale, avec pour conséquence que ça compte pas pour les trimestres de retraite. Donc c'est non seulement, enfin, on voit que sur les contrats, il y a une attaque sur les contrats précaires, sont principalement, c'est beaucoup des femmes qui ont des contrats très précaires, qu'à partir de 50 ans, il y a une inégalité qui apparaît où il y a beaucoup plus de femmes au chômage de longue durée que d'hommes, et donc ça va se continuer dans la retraite. Et l'autre chose dont il a été question, c'est de l'accompagnement, enfin de la formation, donc que les seniors, à partir du moment où ils sont plus en emploi, de les orienter de gré ou de force vers de la formation, sans plus de détails sur le type de formation que ça va être. Donc comme par ailleurs se profile à travers le plan 500 000 formations, la loi zéro chômeur de longue durée, le compte personnel d'activité, toute une politique de reconversion forcée des gens qui sont plus embauchés plutôt vers des métiers déqualifiés, on peut imaginer, ça n'a pas été dit, mais on peut imaginer que c'est ça qui est le projet sous-jacent à cette attention subite pour les seniors. Avec bien évidemment pas de discussion possible sur augmenter les recettes, donc taxer par exemple enfin, les propositions de la CGT qui sont de taxer les ruptures conventionnelles, ou sur des possibilités de vraie reconversion avec de pouvoir utiliser ces CIF, y compris quand on est au chômage, donc d'avoir des formations qualifiantes de longue durée, etc.
Sur la négociation globale, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'avec la précarisation de tous les emplois qui augmente de mois en mois, En 2014, il y avait, tu me corriges Denis, parce que moi je n'étais pas à la négo, mais c'était 800 millions d'économies faites sur le dos des demandeurs d'emploi, dont près de la moitié sur le dos des plus précaires, dont les salariés intérimaires, pratiquement entre 350 et 400 millions. En 2016, aujourd'hui, il prévoit dans le pire scénario pour nous, le meilleur pour eux, jusqu'à ce que disait Denis, 1,5 milliard d'économies d'euros à nouveau sur les plus précaires, tout ça en partant d'un postulat qui est totalement honteux, infondé, etc. Comme quoi, on part du principe qu'il y aurait encore aujourd'hui des salariés privés d'emploi ou qui cumulent une partie d'activité, travail avec une partie d'indemnisation, avec un revenu d'assurance chômage, et qui dépasserait, mon Dieu, 100% de ce que auraient perçu s'ils avaient un salarié qui aurait travaillé à temps plein. Ça n'existe plus depuis 2014. Déjà en 2014, ils s'étaient servis de ça pour les intérimaires qui étaient dans le cadre de l'annexe 4 à l'époque, en disant c'est pas normal que quand on travaille moins, on puisse toucher plus que 100% de ce qu'on aurait touché si on travaillait. Déjà en 2014, c'était peanuts. C'était éventuellement quelques dizaines de salariés qui étaient dans ce cas de figure-là par rapport aux règles de l'indemnisation à l'époque. Aujourd'hui, ils repartent du même postulat, comme quoi il y en a qui dépasseraient les 100%. Bon, ils nous disent ni combien, ni quoi, ni qu'est-ce. Si ça se trouve, il en reste 10. Et à partir de ça, ils déroulent tout le plan d'économie drastique qu'ils veulent faire sur le régime d'assurance chômage, sur le dos des chômeurs. Et ils s'en servent pour dérouler leur plan d'économie. En occultant totalement et en refusant de parler d'une quelconque source de recettes pour l'assurance chômage supplémentaire. Donc la bataille, elle est là. Quand on met tout bout à bout, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure au mégaphone, une camarade, je ne sais pas son nom, sur le balcon. Voilà, que ça va amener en fait tous les travailleurs à une course à n'importe quel emploi, à n'importe quel prix. Aujourd'hui, dans l'intérim, un intérimaire, il a déjà, avec les conditions qu'on subit, deux fois plus de risques d'avoir un accident du travail que sur un même poste qu'un salarié en CDI. Quand il a l'accident du travail, quand il subit l'accident du travail, son taux de gravité est deux fois plus élevé qu'un salarié en CDI au même poste. Aujourd'hui, si on baisse encore les indemnités de chômage de 200, 300, voire plus euros par mois pour ces travailleurs-là, on va les jeter dans une spirale infernale où ils vont devoir prendre n'importe quel travail de merde qu'on va vouloir leur donner. Et ils vont se retrouver, on va se retrouver encore avec des augmentations de taux d'accident du travail, avec des mecs qui vont perdre leur main, qui vont perdre un œil, qui vont perdre leur vie pour essayer de la gagner. Voilà, tout simplement. Donc, et avec... Il faut le dire quand même, une CFDT qui est totalement inféodée à la délégation patronale et qui va même jusqu'à tweeter que les arguments de la CGT dans la négociation, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est qu'on n'a plus rien à dire. En gros,
l'argument, c'est que l'argument en question, c'est quand même que, sans faire pleurer dans les chaumières, hein, mais il y a un rapport du Conseil économique et social, dont la rapporteuse est de CGT, qui est sorti mardi, qui a étudié les conséquences du chômage sur la santé des privés d'emploi. Et donc qui montrait que le taux, enfin que les affections, les décès et en particulier les suicides étaient bien plus élevés dans cette catégorie-là. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on comprend de façon assez empirique, hein, évidemment, mais c'est documenté. Donc on a posé la question dans notre intervention en disant, mais donc est-ce que vous pouvez nous estimer le nombre de suicides qui sont prévus par les baisses de droits que vous envisagez à 1 milliard ou 1,5 milliard? Voilà, la réponse...
La seule
tweet qu'elle a pu faire, c'est de dire, vraiment, les arguments de la CGT sont descendus bien bas intellectuellement.
Alors que depuis le début de la négociation, ils parlent de soi-disant des effets de comportement de ces salopards de chômeurs qui profitent des failles du système. Il faut arrêter de prendre quand même... Hein. Pas des poussins.
Et par rapport à ces effets de comportement, donc en fait là, manifestement, il trouve que travailler le dimanche, c'est pas bien, vu que si on travaille 7 jours par semaine, il y en a deux qui sont pas indemnisés, que travailler 12 heures par jour, c'est pas bien, parce que si on travaille 12 heures par jour, ils en comptent que 7 pour l'ouverture des droits, Et c'est quoi le troisième truc? Enfin, donc finalement, tout bien réfléchi, c'est complètement antithétique avec ce qui est en train de se mettre dans la loi travail. C'est-à-dire que d'un côté, dans la loi travail, il y a toute la possibilité de travailler le dimanche, de travailler tout le temps, de travailler de travail atypique, enfin dans des horaires complètement de modulés sur trois ans, etc. Et d'un autre côté, dans la négociation UNEDIC, c'est sur ces gens-là qui vont se retrouver précarisés par la loi travail que se font les économies. Enfin, c'est justement sous prétexte qu'ils vont travailler 7 jours par, 6 ou 7 jours par semaine, on tiendra compte que de 5. S'ils travaillent 12 heures par jour, on tiendra compte que de 7. Donc c'est tout ça qui est raboté. Et selon un principe qui était déjà commencé avec les droits rechargeables, qui était que, avec, en fait, sous prétexte d'étaler dans le temps, le revenu minimum, enfin le revenu mensuel baisse. Parce que si on travaille plus, on a un nombre de jours non indemnisés dans le mois qui est plus important. Et c'est la suite de ce même mécanisme, en réintroduisant un nouveau coefficient qui est un coefficient d'intensité de travail, qui fait que moins on travaille, moins on sera indemnisé. Donc c'est la poursuite d'une logique qui a démarré quand même depuis maintenant des années et qui, donc avec le même effet entre, en 2014, c'était l'année du 11 janvier 2013 qui mettait fin finalement aux garanties du CDI contre les droits rechargeables. Et là, c'est la loi travail contre cette espèce de coefficient d'intensité de travail.
Bon. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur le truc, ça devient un peu technique, donc on ne va pas vous saouler sur les éléments, mais... Ouais, Loïc.
Ouais, quand tu dis que le MEDEF a décidé ce midi que c'était terminé pour aujourd'hui, etc. Les autres, dans ces cas-là, disent que bon, bah, si le MEDEF s'en va, tout le monde s'en va, ou il y aurait moyen, sur un moment comme ça, de dire bah, on va pouvoir enfin continuer la discussion sans le MEDEF?
Malheureusement, non. Déjà, on est au MEDEF, donc c'est déjà un des problèmes. C'est que si, c'est le fait que la négociation ait lieu au MEDEF, c'est déjà leur permettre, eux, de leur dire qu'ils ne quittent jamais la table de négociation de chez eux. Et puis, par ailleurs, il faut bien le dire, du côté des syndicats de salariés, il n'y a pas unanimité. On a réussi à faire en sorte, à la précédente réunion, qu'il y ait une déclaration commune CGT, FO et CGC, qui a dit « Il est hors de question de commencer à discuter de baisse de droits. Nous, on veut discuter des augmentations de recettes. » Bien sûr, quand tu veux réduire un déficit, parce que quand même l'assurance chômage, c'est pas fait pour ça d'abord, mais les comptes peuvent être équilibrés. Mais tu veux en dire un déficit, tu peux, au lieu de baisser les droits ou de baisser les dépenses, tu augmentes les recettes. Et ça, malgré le fait qu'on ait fait une déclaration à 3 organisations sur 5, que 3 sur 5, hein, CFDT et CFTC, ne l'ont pas suivi, leur a été proposé, la discussion a eu lieu, mais le MEDEF n'a pas bougé d'un poil. Donc là, aujourd'hui, il y avait... On s'est posé la question d'ailleurs d'y aller. Hein. À un moment, on a proposé au moins au même à la CGC et à FO, avant d'aller à la négociation, de se tirer d'entrée de jeu si le MEDEF ne voulait pas discuter sur la base de nos propositions. Et on s'est retrouvé tout seul. Donc là, du coup, on est resté pour surveiller tout ce qui se disait et à récupérer les documents que nous ne récupérons que sur table pour avoir toutes les infos sur ce qui s'y passe et essayer d'alerter le plus largement possible sur ce qui s'est dit. Mais à midi et demi, non, c'était... Et encore, on a fait durer les choses avec notre interruption de séance le plus possible. Donc, c'est clair. Bon, à voir... De toute façon, il faut bien voir que c'était clairement organisé entre le MEDEF et l'UNEDIC pour qu'ils tirent le plus longtemps possible. Ils avaient une étude qui est le prolongement de ce qu'ils nous ont déjà présenté la dernière fois, puis une étude sur l'étude d'activité réduite, puis l'étude sur les seniors... qui comporte des éléments intéressants, hein. Il y a toujours quelques chiffres intéressants, mais tout ça c'était pour occuper la matinée, c'est pas une négociation, ce genre de réunion c'est une réunion de groupe préparatoire technique en réalité, c'est où on donne des infos, normalement on donne les infos les mêmes pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas, et c'est un groupe préparatoire technique, c'est pas une négo, pour nous on dit, et ce qu'on a vu dans le communiqué CGT, la négociation n'a pas commencé, bon, après elle va peut-être commencer dans les couloirs sans nous, mais comme d'habitude, mais elle n'a pas commencé, parce que le MEDEF amuse la galerie avec son chantage. Donc,
il a toujours fait ça.
Oui, mais là, cette année, ils sont pas pressés de conclure parce que déjà, ils sont pas d'accord entre eux.
Les chiffres, à chaque fois, les chiffres, on les a jamais eu.
Ah oui, ça sur les manipulations des chiffres et le fait que l'UNEDIC, voilà, particulièrement depuis 2014, enfin depuis avant 2014, mais on l'a vu la commission 2014, il y a clairement une partialité totale de l'UNEDIC. Ce matin, quand on a gueulé en disant, c'est quand même incroyable, vous nous envoyez le document, vous nous déposez sur table un document de 29 pages et on est censé réagir tout de suite sans avoir rien vu, sans avoir le temps d'imaginer toutes les conséquences. Et le responsable de l'UNEDIC, le directeur, Vincent Destival, que j'aime beaucoup, a dit, ah bah oui, mais écoutez, on a travaillé dessus jusqu'à très tard hier soir et autres. Sauf que l'autre document sur les seniors, comme l'a dit Muriel, il était prêt il y a 15 jours et on ne l'a pas plus eu par mail quelques jours avant pour avoir l'étudié. Hein. Pour une raison en plus qui est très claire, puisque je siège au bureau de l'UNEDIC pour la CGT et les choses se passent exactement de la même façon. Tous les documents sensibles, ils les déposent sur table. La CFDT et le MEDEF qui président ou co-président, eux, co-président, évidemment, les ont eu avant. Pour avoir le temps de les étudier, les concocter ensemble. Et les documents que tu as sur table quand tu arrives à 15h pour une réunion et que la réunion, même si tu arrives à 15h-5 et qu'on te file 40 pages de documents, que tu n'es pas spécialiste à la fois de sociologie, d'économie, de machin et trucs dans le genre, tu n'as pas eu le temps de le mettre en commun avec des camarades qui peuvent t'aiguiller ou voire même rendre public ces documents, c'est vraiment fait exprès. C'est l'excuse est de dire oui, on comprend bien que c'est difficile de travailler comme ça, mais après, ça se retrouve dans la presse, vous comprenez. Et alors,
non, c'est-à-dire, dans la presse, ils vont dire après grande négociation, on en arrive à ça.
Ça dépend lesquels. Je pense que là, on les a beaucoup fâchés parce qu'à l'interruption de séance, on a demandé l'interruption de séance qu'on a donc obtenue après un quart d'heure de pourparlers. On a commencé à aller voir les journalistes qui sont à la salle de presse au rez-de-chaussée en leur donnant le document aussi et en disant bon voilà, voilà ce qui se passe là-haut, on est en train de taper sur les droits des chômeurs en espérant qu'il y en ait un ou deux qui le relaient. Bon voilà, il y a un ou deux journaux qui vont le relayer, d'autres qui s'en foutent ou qui trouvent pas ça ou qui comprennent pas. Et donc, quand on est revenu après en séance, en ayant en plus pris le temps de lire l'accord, enfin l'accord, le texte, pardon, l'info, les documents d'information du l'UNEDIC, on s'est en plus fait engueuler, entre guillemets, en disant que quand même, on profite des interruptions de séance qu'on a nous-mêmes demandées pour aller parler à la presse. C'est quand même pas très correct. Hein. Bon, alors, on les a envoyés chier, évidemment. Hein. Bon. Tu veux dire un truc, Philippe ?
Il y a une grande salle en bas, ouais, qui est la café, qui veulent bien nous ouvrir. Parce que là, on commence à une discussion, débat. Ceux qui sont restés là-haut n'y participent pas. On pourrait peut-être.
Mais c'est un problème
ceux qui. Il y en a qui peuvent rester ici pour tenir le balcon, on peut s'organiser. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'arrive pas à débattre un peu collectivement. Donc il y a une grande salle en bas où on peut tous tenir. Tous moins ceux qui désirent garder le balcon, la banderole, le sixième étage, on s'organise, on voit comment on se répartit. Par ailleurs, la direction de l'établissement attend une délégation, c'est-à-dire qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc ils sont prêts à recevoir une délégation des occupants pour prendre la mesure de qu'est-ce qu'on fait là, combien de temps, etc. Je pense qu'il est difficile de répondre d'organiser cette délégation tant qu'on n'en a pas un peu justement débattu collectivement. Donc je pense que... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous proposerais qu'on aille être le plus collectif et le plus nombreux possible à discuter de ça, de ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'on définit une délégation pour rencontrer la direction de l'AMF ou pas? Est-ce qu'on se parle de ce qui est en train de se passer dans la rue actuellement sur le cortège, parce que ça canarde encore?
On avait demandé à rencontrer Macron.
Ça peut être une revendication.
Il faut qu'on laisse des gens là-haut et ici. Et deuxièmement, il y a des gens qui commencent à rentrer et sortir. Maintenant, tout à l'heure, on avait du mal à rentrer. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Maintenant, ça rentre et ça sort. Et un non, mais tu peux avoir 2-3 flics en civil qui foutent la merde là-haut, par exemple. Parce que là-haut, c'est sensible. Et ce serait pas bien pour nous. Pour nous, ce serait pas bien. Donc il faut qu'on ait quand même au moins des copains sérieux qui gardent là-haut et ici.
Sur la tenue de l'occupation, nous, on n'est pas entré avec vous là-dessus. Si vous souhaitez qu'on aille continuer le débat à la cafette et puis qu'on débatte collectivement de comment, s'il y a une délégation qui est reçue et de voir comment on fait, on peut. Hein. Ça me,
un peu plus là-haut qu'ici.
Il faut que la vie soit partagée par le plus grand nombre.